À vrai dire, on n'est pas capable de répondre à cette question tant qu'on ne mène pas une longue enquête, hein, telle celle que fait la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Pour les enquêtes qui ont déjà eu lieu dans les pays occidentaux, on ne peut pas dire qu'il y ait plus d'abus. Le drame est qu'on ne peut pas dire qu'il y en ait moins. Le taux de prévalence ne semble pas être moins important que dans le reste de la population, quoi.
Est-ce que vous pourriez nous décrire peut-être ce qui diffère dans l'Église quand on parle de cas de faits d'abus sexuels commis par rapport à ailleurs dans la société? Il y a certainement des mécanismes propres, en tout cas on a beaucoup parlé du silence.
En Église, si on peut dire bien tristement, dans l'Église catholique, c'est à la fois la question du silence. En effet, l'Église, c'est beaucoup pensé comme une institution devant faire face au monde et se protéger. Il y a aussi pensé le scandale souvent de nuire à l'Église et non pas de nuire aux enfants. Donc les enfants ou les adultes qui essayaient de parler étant vécus comme des gens qui perturbaient ou qui pouvaient faire du mal à l'Église. Donc je pense que nous sommes sortis de cette époque, mais ça aura fait beaucoup de mal aux victimes, à leurs proches. Et puis le deuxième facteur aggravant en particulier, c'est bien sûr que beaucoup de ces agresseurs l'ont fait en signifiant à leurs victimes que ceux-ci avaient à voir ces crimes avec la volonté de Dieu lui-même. Donc avec une sorte d'autorité indiscutable, évidemment, qui a beaucoup aggravé les choses pour les victimes, puisque ceci alors signifie, comme le dit si bien le pape François, que c'est aussi un abus spirituel que cet abus sexuel.
Vous nous le dites, hein, les choses évoluent fort heureusement ces dernières années. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça y est, la parole est suffisamment libérée?
On ne peut jamais dire que la parole est suffisamment libérée, parce que nul ne sait quand les victimes d'hier ou d'aujourd'hui parleront, y compris de par les phénomènes d'amnésie traumatique. Donc c'est extrêmement difficile à dire. Rien n'est suffisant par rapport à des crimes et par rapport à l'ampleur de la souffrance des victimes. Rien ne sera jamais suffisant. Ce qui est fait, sans doute, arrive bien tardivement, mais au moins, ça arrive. Donc maintenant, il faut faire la vérité. Il faut sans doute entreprendre de vraies réformes dans l'Église, y compris quant à son droit, ce qu'on appelle le droit canonique, le droit de l'Église, hein, sur la place des victimes dans ce droit, sur la question des peines. Bon, là, il y a un gros, gros chantier. Il faut sans doute revoir la question que dénonce si souvent, là aussi, le pape François sur le cléricalisme, c'est-à-dire sur la place des prêtres, sur la façon de plus les considérer sans doute comme des hommes qui ont un rôle important, mais qui sont comme des hommes et non pas de trop sacraliser cette place. Donc il y a de gros chantiers qui sont devant nous.
Est-ce que justement, pour conclure, vous pourriez nous donner peut-être une ou deux pistes concrètes d'issue à cette crise dans l'Église, selon vous?
Alors les pistes concrètes, c'est d'abord la place des victimes, c'est-à-dire il nous faut vraiment travailler avec les victimes qu'ils souhaitent, parce que, bien tristement, elles sont en quelque sorte les expertes de leur souffrance et donc aussi des questions que ceux-ci posent à leur foi pour celles qui sont croyantes au sens de l'Église. Donc ça, c'est une vraie piste concrète. Une autre piste, c'est justement sur la réflexion sur la place du prêtre dans les communautés catholiques, sur plus d'altérité, ce qu'on appelle de synodalité, c'est-à-dire une meilleure coparticipation des laïcs dans l'Église. À ce titre-là, c'est aussi sans doute la question de la place des femmes. Et puis c'est bien sûr le travail avec la justice qui, lui, se fait maintenant, je pense, pleinement. La justice civile, bien sûr, la justice de notre pays qui doit être encore renforcée.